Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons notre émission sur le thème de l'âme séparée dans l'état du purgatoire. Nous avons vu dans la dernière émission, la semaine dernière, donc cette possibilité d'entrer dans cette communion avec nos frères et sœurs défunts. Et nous avons vu comment aussi eh bien, nous pouvons entrer dans cette communion à travers, en particulier, la prière, à travers la célébration de la messe. C'est tout ce que nous pouvons faire aussi pour que bien, ces âmes du purgatoire et les âmes de nos défunts entrent dans la béatitude, c'est-à-dire dans la vie bienheureuse à laquelle eh bien, Dieu nous promet. L'âme, je rappelle que l'âme aussi, donc dans l'état de purgatoire, a déjà la certitude d'être sauvée, mais elle est encore attachée aux peines dues au péché. Nous verrons dans les prochaines émissions aussi la grâce particulière des indulgences qui aussi nous est attribuée par l'Église pour pouvoir bénéficier de cette purification nécessaire au salut, soit pour nous-mêmes, soit pour nos frères et sœurs défunts. Dans cette émission de cette semaine, nous allons nous arrêter particulièrement sur cette distinction entre communion et communication avec les défunts. En effet, dans l'Église, nous parlons de communion qui se fonde sur cette grande communion des saints qui lie à la fois l'Église terrestre et l'Église céleste. À la différence, donc, la communication avec les défunts est proprement du monde occulte, en particulier du spiritisme. Alors, nous allons nous arrêter dans cette émission pour cette semaine sur cette distinction à travers un enseignement que je vous propose, donc du Père Dominique Ausnet. Vous le connaissez aussi puisqu'il nous fait aussi des émissions que l'on diffuse le lundi sur Radio Salve Regina, l'émission Occultisme d'Angers, sur cette question du spiritisme et en particulier sur cette distinction entre communication et communion avec les défunts.
Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du spiritisme. J'ai presque envie de lancer à la cantonade, vous avez essayé ? Parce qu'il y a tellement de gens qui essaient que ils se rendent pas compte que le spiritisme est une chose grave. Je l'ai appelé personnellement une illusion dangereuse. Illusion de pouvoir penser, s'amuser, mais dangereuse parce que l'appel aux esprits ne reste jamais sans réponse, malheureusement. Alors nous continuons à réfléchir sur le spiritisme en posant la question, peut-on communiquer avec les morts ? En effet, on s'aperçoit en regardant autour de soi que les associations, les publications, les émissions sur ces questions sont récurrentes. Je voyais par exemple dans mon propre diocèse une association qui s'appelle les Signes d'Étienne, où une personne finalement qui a été confrontée au décès de l'un de ses enfants, qui s'appelait Étienne, a fondé une association qui propose une fois par mois des conférences dans un grand restaurant de autour du Mans, un grill de quatre pentes pour ne pas nommer, et ces conférences à chaque fois sont un temps de conférence et un temps de médiumnité. On lui dit conférence et médiumnité avec telle personne à telle date. Et il y en a ainsi, une fois, on fait une piqûre de rappel une fois par mois auprès de personnes qui sont vraiment intéressées par ce sujet. Mais il y a bien d'autres, comment dire, il y a bien d'autres façons de s'intéresser à la communication avec les morts. Je pense que l'une des façons, c'est l'écriture automatique, qui n'est pas à confondre avec l'inspiration scripturaire, n'est-ce pas ? Il y a des l'inspiration de la Bible, il y a des photos qui quelquefois peuvent nous induire en erreur, pas des photos mais des peintures de certains artistes d'ailleurs. Je pense par exemple au Caravage qui nous montre Saint Matthieu en train d'écrire son évangile avec derrière lui un ange qui lui souffle à l'oreille ce qu'il doit écrire. Cette conception fondamentaliste de l'inspiration de l'écriture est fausse. Et on pourrait faire le lien entre l'écriture automatique et ce genre d'aspiration à cause de cette peinture. Mais l'écriture automatique est toujours un procédé occulte. Toujours un procédé occulte. Et donc, lorsque des parents qui ont un enfant décédé prétendent correspondre avec lui et avoir des paroles qui leur sont adressées, des messages, les coucher par écrit, et puis nous en donner un compte-rendu détaillé à travers les conférences et les publications, c'est toujours de type occulte. Je voudrais proposer trois personnes qui nous alimente dans ce sens-là. Je pense à une revue qui s'appelle La Revue de l'Au-delà, vous trouverez ça sur Internet, avec une famille, la famille de Georges Moranier, qui est décédé en 1973 et ses parents prétendent communiquer avec lui par écriture automatique. Je pense à une deuxième famille, famille Gourvenec, avec le décès d'un petit Arnaud, mort en 1989, et qui ont publié à l'heure actuelle plusieurs volumes de correspondances occultes avec leur fils Arnaud, de messages prétendument de l'au-delà. Et leur livre s'appelle « Vers le soleil de Dieu », tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, tome 5 actuellement. Et puis d'autres livres encore, écrits par la maman, « Dealer Mamoun », par exemple, la mère d'Arnaud témoigne. Je m'étais évertué une fois à faire l'analyse de ce livre-là parce que je voyais que dans des abbayes célèbres, cette femme passait en donnant des conférences. C'est parfaitement trompeur. Il n'y a pas de communion avec les morts. On se fait toujours rouler dans la farine. Ce sont toujours des esprits qui sont à l'autre bout du fil, des esprits ténébreux, des démons. Une troisième famille, je pense, c'est la famille Cara ou Carayon, avec leur fils Jean, décédé en 1996, et qui publie des livres « Jean, messager de la lumière ». Et là encore, il y a plusieurs tomes. Et alors là, ils ont des messages sur des thèmes où ils peuvent publier des volumes comme « La communion des saints », « Au souffle de l'amour »,« Le temps presse »,« Guérison de l'arbre généalogique », tiens, c'est à la mode. « En route vers la Jérusalem céleste »,« Pour bien passer la porte du ciel », etc. Il est vraiment très volubile, leur fils. Et soyons très attentifs à cela. Mais dans les revues spécialisées en apparitions, etc., je dirais qu'on nous propose régulièrement des consolations avec des personnes qui prétendent pouvoir délivrer des messages de défunts. Dans la publication qui s'appelle Stella Maris, aux éditions du Parvis, je pense à une personne italienne qui s'appelle Mirella Pizzoli, qui finalement reçoit chez elle des parents en grande détresse, des familles en grande détresse et qui veulent se renseigner sur leurs défunts, ou à propos d'enfants non-nés par exemple, hein, et qui se permet de délivrer des messages de la part de ces personnes qui auraient franchi l'au-delà. Et voilà, elle parle avec des anges, mais pas que, aussi avec précisément toutes sortes de défunts. Et donc elle fait état de ses expériences à travers des vidéos, des publications. C'est dangereux de laisser penser que parce qu'il y a peut-être un exemple qui est un peu labellisé par l'Église, je pense à Maria Simma, qui avait des visites d'âmes du purgatoire, c'est dangereux de laisser penser que ces personnes-là sont sur le même créneau, alors qu'elles font en fait du spiritisme, même si elles ne s'en aperçoivent pas, malheureusement. Donc vous comprenez, il y a évidemment aussi, dans les cas d'écriture automatique, des fausses mystiques. Je pense à Vasula, fausse prophétesse, dont les messages étaient mis par écrit, par écriture automatique. Je pense à Juliana Bettini, dont Stella Maris aussi se fait l'écho. Et il y en a d'autres. Donc soyons très attentifs et soyons vraiment conscients que nous sommes là face à des procédés occultes qui sont de correspondance avec les esprits. Je pense à deux accros forts du spiritisme aussi. L'un qui s'appelle Victor Hugo, un écrivain français, Victor Hugo. Il y a un homme qui s'appelle Patrice Boivin, qui a publié assez récemment un gros livre de 760 pages qui s'appelle « Le livre des tables, les séances spirites de Jersey ». de Victor Hugo, avec beaucoup, beaucoup d'inédits. En effet, Victor Hugo était spirit. L'affaire est connue. C'était à la mode dans les cercles éclairés de l'époque romantique. Mais de ces récits, on n'avait pu lire qu'une infime partie. Avec ce gros volume, on a ici la restitution des comptes rendus, en quelque sorte. Plus de 500 pages de compte rendu des séances de spiritisme dans la vie de Victor Hugo. Je pense malheureusement au père Brune, il faut bien en dire un mot, qui, à travers ses livres, Je parle avec les morts, n'est-ce pas, prétend fonder une communication, une transcommunication, comme dit-il, instrumentale. Cet homme, qui est un prêtre, qui est un sulpicien, est un électron libre. Et il prétend lui aussi communiquer avec les esprits des morts à travers des bandes enregistrées, à travers bien d'autres choses. Si vous regardez ses vidéos sur Internet, vous pourrez voir qu'il tient des propos qui sont évidemment éloignés de la doctrine catholique, de la doctrine chrétienne même tout simplement. Et on est dans le spiritisme, et de la part d'un prêtre, évidemment, c'est problématique. Et sa production littéraire est abondante. Et comme c'est un homme qui est attentif à la soif de spiritualité de nos contemporains, eh bien, il y a bien des personnes qui lisent leurs volumes, ces volumes, et qui sont persuadées, qui sont là en face d'une véritable révélation d'ordre spirituel. Or, malheureusement, on est toujours et encore dans le culte. Voilà. Alors, on se posera la question tout à l'heure, puisque ma réponse à la question « Peut-on communiquer avec les morts ?» est une réponse négative. On se posera la question, on y reviendra, sur qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet ? Qu'est-ce que dit l'Église sur le spiritisme ? En effet, appeler les esprits dans le plus large et le plus sens le plus large et le plus vague du terme, c'est forcément dangereux. On va y revenir après notre pause musicale. Oui, appeler les esprits au sens le plus large, le plus vague du terme, c'est forcément dangereux. Mais vous savez, entre le spiritisme et la médiumnité sous toutes ses formes, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette, comme on disait autrefois. Et donc, il n'y a pas seulement que le spiritisme au sens fondamental du terme, il y a aussi tout l'aspect de médiumnité, de ressenti, qui fait état de communication avec, au-delà du voile, avec des entités, avec des esprits. Alors, on se trouve, évidemment, puisqu'on ne peut pas entrer en contact avec les morts, on se trouve devant trois possibilités. Ou bien c'est de la supercherie. On veut nous faire croire que ce sont les esprits des morts qui se manifestent, alors qu'il s'agit d'une mise en scène, un trucage à l'intérieur d'un groupe qui s'est réuni. Au XIXe siècle, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de supercherie dans le spiritisme. Mais il peut s'agir aussi de l'action occulte d'un médium, c'est-à-dire d'une personne qui a des capacités psychiques mauvaises, pour pénétrer dans le subconscient des autres, de sorte à pouvoir manipuler le groupe. Ainsi, en se mettant autour d'une table, il y a l'une des personnes qui est médium et qui est capable de faire une ponction psychique, un viol psychique auprès d'une autre personne qui est autour de la table, et ainsi d'avoir des renseignements sur les défunts de la famille et de faire parler à son défunt en lui apportant sur un plateau d'argent des renseignements extrêmement circonstanciés, précis, avec des noms, des dates, des lieux. C'est parfaitement bluffant, mais excusez-moi, de l'autre côté, ce n'est pas le défunt qui parle, c'est l'esprit. Ou bien, troisièmement, c'est dangereux parce qu'il peut y avoir vraiment l'irruption des forces diaboliques, car quand on appelle les esprits, les démons peuvent se manifester assez immédiatement, puisqu'on s'est ouvert à cette éventualité. Ce ne sont pas les anges qui se manifestent. Les anges sont de purs esprits, ce sont des anges déchus. C'est-à-dire fixés dans le mal à jamais, Satan et ses démons. Et évidemment, quand les démons se manifestent, c'est peut-être très grave pour soi et pour d'autres. Ça peut évidemment se manifester à travers une table qui passe à travers la fenêtre, etc. Mais ça peut se manifester malheureusement à travers une révélation qui est faite sur le décès de l'un des participants à la séance de spiritisme. Et quand ça se produit peu de temps après, excusez-moi, mais c'est extrêmement tragique pour l'ensemble des personnes qui ont vécu, c'est extrêmement traumatisant. Et on se pose toujours la question, s'il n'avait pas fait de spiritisme, eh bien, cela se serait-il produit, n'est-ce pas ? Je reviens à la question, peut-on entrer en contact avec les morts et les esprits des morts? Et ma réponse, c'est vraiment non, non, non et non. Car dans le cadre de la révélation de la religion chrétienne, nous n'avons pas de contact direct avec ceux qui sont morts. Ceux qui meurent entrent dans l'invisible de Dieu, ils voient Jésus et le Père face à face, ils sont en présence de tous les vivants qui nous ont précédés, mais il n'y a pas de communication physique ou psychique entre le monde invisible et le monde visible. S'il y a communication, elle est spirituelle et elle passe toujours, toujours par Jésus ressuscité. Donc, évidemment, je peux prier pour les défunts que j'ai bien connus, mais en passant par Jésus, c'est-à-dire en offrant le sacrifice de la messe pour leur obtenir d'être purifiés plus rapidement de toute racine de péché. Est-ce que les défunts peuvent prier pour moi? Évidemment, car ils peuvent le faire en passant par Jésus, lui demandant de nous accorder telle ou telle grâce et ainsi nous l'obtenir. Sûrement, nombreuses sont probablement les grâces que nous avons reçues ainsi. Mais vous comprenez bien que tout message provenant des défunts par un médium, c'est forcément suspect, car à l'autre bout de la ligne, ce sont les esprits des ténèbres qui s'expriment, on les a appelés, ils prennent pied sur le quai, et alors ils se mettent à nous embarquer dans des choses pas possibles. Que dit la Bible à propos de l'évocation des esprits? Il y a deux textes que je voudrais citer, c'est le Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14, où il est écrit « On ne trouvera chez toi personne qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. » C'est clair, on ne peut pas faire plus clair, n'est-ce pas? Interroger les devins, invoquer les morts, quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu. Il y a donc un péché grave dans le spiritisme, dans la divination en général. Il y a un péché grave qui est contenu. Il faut toujours passer par la case confession des péchés quand on veut s'en sortir. Voici la seconde partie de la question christianisme et spiritisme. Que dit la Bible sur la nécromancie? Quel est l'enseignement de l'Église sur ces questions? Et le catéchisme de l'Église catholique, et etc., etc. Donc tout d'abord, que dit la Bible sur la nécromancie? La nécromancie a été pratiquée en Israël à différentes époques. On lit par exemple dans le deuxième livre des rois, Manassé, c'est au 7e siècle avant Jésus-Christ, Manassé fit passer son fils par le feu, il pratiqua les incantations et la divination, installa des nécromants et des devins, il multiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises, provoquant ainsi sa colère. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 8, verset 19, « Et si on vous dit, allez consulter les spectres et les devins qui murmurent et qui marmonnent, n'est-il pas vrai qu'un peuple consulte ses dieux et les morts pour les vivants ?» Donc la nécromancie est attestée dans l'Écriture comme pratiquée à différentes époques, mais on trouve dans l'Écriture une condamnation ferme et sans appel de la nécromancie, de la divination par l'invocation des esprits des morts, appelée aussi spiritisme. Dans le livre du Lévitique en trois endroits, chapitre 19, verset 31, « Ne vous tournez pas vers les spectres et ne recherchez pas les devins, ils vous souilleraient. « Je suis Yahvé, ton Dieu. » Chapitre 20, verset 6. « Celui qui s'adressera aux spectres et aux devins pour se prostituer à leur suite, je me tournerai contre cet homme-là et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Vous vous sanctifierez pour être saint, car je suis Yahvé, votre Dieu. » Chapitre 20, verset 27. « L'homme ou la femme qui parmi vous serait nécromant ou devin, ils seront mis à mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Donc une condamnation sans appel par rapport à la nécromancie. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, un passage qui semble être le plus important, « On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique divination, incantation, mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahvé ton Dieu, et c'est à cause de ces abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. » Tu seras sans tâche vis-à-vis de Yahvé ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour toi le don de Yahvé ton Dieu. Yahvé ton Dieu suscitera pour toi du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Prophétie de la venue du Messie, de la venue de Jésus. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 8, « Car ainsi parle Yahvé Sabaoth, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous, ni par vos devins. N'écoutez pas les songes que vous faites, car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. » Et enfin, Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, interpelle les gens dans une parabole en disant « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ces jours-là « Seigneur, n'est-ce Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Il est très frappant de trouver dans la bouche de Jésus la juxtaposition entre le mot miracle et le mot mal. Sans doute veut-il nous dire que le mal est capable de se déguiser en bien pour mieux nous attraper, comme le caméléon qui s'adapte à son milieu pour mieux arriver à attraper sa proie. Autrement dit, les charismes, qu'il s'agisse de la prophétie, de la délivrance ou des guérisons, les charismes peuvent avoir leur contrefaçon occulte. La parole donnée peut n'être qu'une divination ou une médiumnité. La délivrance et la guérison peuvent n'être que des tours de passe-passe accomplis par des désenvoûteurs ou des magiciens. Le critère d'une vraie vie chrétienne n'est pas l'exercice des charismes, dit Jésus, mais l'obéissance à la volonté divine dans toute notre vie. Je voudrais maintenant mentionner un épisode biblique un peu curieux, qui est celui de la sorcière d'Endor. Ce texte étonnant se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 25, avec un rappel dans le premier livre des Chroniques, chapitre 10, versets 13 à 14. Saül mourut pour s'être montré infidèle envers Yahvé, il n'avait pas observé la parole de Yahvé, et de plus, il avait interrogé et consulté un revenant, il n'avait pas consulté Yahvé, qui le fit mourir et transféra la royauté à David, fils de Jessé. Ce récit a pour cadre la défaite d'Israël contre les Philistins. Le roi Saül a essayé de toutes ses forces de recevoir de Dieu une parole prophétique, mais en vain. Le vieux prophète Samuel est mort et le roi Saül ne dispose plus des conseils prophétiques auxquels il était habitué. Et en désespoir de cause, Saül, déguisé, va consulter une sorcière à Endor. Il lui demande d'invoquer Samuel, sans doute parce qu'il veut obtenir de lui un conseil par-delà la tombe. Il y a bien sûr des commentateurs pour qui cet épisode ne relèverait pas de la nécromancie, du moins simplement au tout début du récit où la sorcière évoque Samuel, et les procédés de sorcellerie cesseraient à partir de ce moment-là, et Samuel et Saul converseraient directement. Samuel prononce alors une terrible prophétie de malédiction pour la maison de Saül et dit que lui et ses fils le rejoindront bientôt dans le monde des morts. Mais il faut plutôt soutenir qu'il s'agit ici d'une usurpation démoniaque de la personne réelle de Samuel. C'est très courant dans le spiritisme, où l'esprit diabolique se fait passer explicitement pour la personne défunte évoquée. Comme l'écrit saint Paul, Satan excelle à se donner l'apparence d'un ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Et Samuel porte ici son ancien manteau de prophète qui lui permet d'être reconnu. L'apparition réprimande sévèrement Saül et lui donne le conseil de suivre la volonté de Dieu. Cela n'est pas étonnant non plus, Satan ment le plus souvent, mais il peut être contraint par Dieu à dire la vérité. On en a des exemples dans les exorcismes et ici aussi, à travers les paroles dites, Dieu manifeste clairement le destin malheureux de Saül et son mécontentement parce que Saül a tenté d'entrer en relation avec les morts par le biais d'un médium. Ce récit est unique dans toute la Bible, et c'est pourquoi je souhaitais lui consacrer ce petit moment. On ne peut pas le comparer avec le récit de la Transfiguration dans les Évangiles, Matthieu 17 ou Luc 9. Élie et Moïse sont apparus non pas comme montant d'en bas, mais dans la gloire et autour de Jésus transfiguré. Et Jésus ne nous autorise pas pour autant à attendre que de telles occasions se reproduisent, ni même à les provoquer ou à les rechercher. Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, Jésus seul. Jésus n'a pas encouragé Pierre à demeurer en contact avec Moïse et Élie. Et maintenant la question, que dit le catéchisme de l'Église catholique? Eh bien, ce catéchisme qui date de 1992, ce n'est pas si lointain, au numéro 2115 à 2117, on peut lire des choses très précises. Dieu peut révéler à l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Le 2116, toutes les formes de divination sont à rejeter, recours à Satan et aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèlent une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de crainte aimante que nous devons à Dieu seul. Le numéro 2117. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Il y a aussi un catéchisme qui s'appelle le UCAT, c'est-à-dire le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes, qui pose au numéro 356 la question « L'ésotérisme est-il compatible avec la foi chrétienne ?» Et la réponse est celle-ci, non. L'ésotérisme passe à côté de la vérité de Dieu. Dieu est une personne, il est l'amour et l'origine de la vie, non une froide énergie cosmique. L'homme est voulu et créé par Dieu, mais il n'est pas divin lui-même. Il est une créature blessée par le péché et qui, pour échapper à la mort définitive, a besoin d'être sauvée. Une personne raisonnable ne doit pas se laisser tenter par une vision irrationnelle du monde où grouillent des fantômes, des gnomes, des fées, des esprits angéliques, ésotériques, où l'on croit à la magie et où les initiés détiennent une science secrète inaccessible à la masse ignorante. Déjà, dans l'ancien Israël, on pointait les croyances aux idoles et aux esprits courantes chez les peuples environnants. Dieu seul est le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, il n'y a pas non plus de technique magique par laquelle on puisse s'approprier le divin, imposer ses vues à l'univers et se sauver soi-même. Bien des pratiques relevant de l'ésotérisme sont, d'un point de vue chrétien, de la superstition et de l'occultisme. Je voudrais en profiter pour recommander un livre pour lequel j'avais rédigé autrefois une petite préface, car il semble intéressant pour un approfondissement sur cette question christianisme et spiritisme. Le livre, c'est celui du père Philippe-Marie Mettet-Fontenelle. Le titre « L'Église au défi du spiritisme, le Christ sauveur des vivants et des morts », il a été publié aux éditions bénédictines en 2008.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.